Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de Jean-Pierre Bibring. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale
à Orsay.
Donc professeur de physique à l'Université Paris-Sud. Et vous êtes responsable de plusieurs programmes d'exploration de Mars et des comètes. On va parler avec vous de Mars, planète bleue, que vous éditez chez Odile Jacob et qui nous parle évidemment de
cette planète. Moi, je ne l'édite pas, mais elle l'édite.
Elle l'édite, vous l'écrivez. Et qui nous parle de cette planète. Alors, en vous lisant, j'ai eu l'impression qu'en parlant de Mars, vous découvriez la Terre. Est-ce que c'est exact ?
Je ne suis pas sûr d'avoir découvert la Terre, mais c'est sûr que d'abord la raison pour laquelle on s'intéresse à Mars et aux autres planètes, c'est pour comprendre mieux la nôtre, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en travaillant sur Mars, j'ai beaucoup compris de l'histoire de notre propre planète, ça c'est exact.
C'est ce qu'on appelle de la planétologie comparée. Est-ce que, en dehors du terme qu'on utilise régulièrement pour dire voilà, on va prendre les planètes, on va tous regarder comment elles se sont formées, comment elles ont évolué, finalement quel est le lien entre la Terre et une planète comme Mars ?
C'est toujours la même idée. Plus on travaille dans ce domaine, plus on s'aperçoit que toutes les planètes, comme le Soleil, ont vraiment une origine incroyablement commune. On ne prend pas la mesure de ce qu'était notre système il y a 4,5 milliards d'années. C'était vraiment un objet extraordinairement homogène et uniforme. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, il n'y en a vraiment pas deux pareils. Et c'est ce contraste entre les conditions d'origine commune et l'état de diversité actuel qui pose problème. Qu'est-ce qui fait l'évolution d'une planète ? Qu'est-ce qui fait la spécificité des objets tels qu'on les voit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que la Terre est tellement unique ? Et pour répondre à cette question, pour comprendre un petit peu ce qu'est le moteur de l'évolution d'une planète, c'est très difficile de s'intéresser qu'à un seul objet, parce que la bonne manière, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire avec l'exploration spatiale, c'est qu'on y a accès aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder comment de mêmes processus ont pu agir dans des conditions différentes ici et là. Et c'est vrai qu'en travaillant sur Mars, on comprend beaucoup mieux ce qui peut faire qu'à un moment donné, dans l'évolution, Mars et la Terre ont vu leur destin diverger.
Alors, vous travaillez quand même sur le long terme, si je puis dire, c'est-à-dire à la fois dans les méthodes d'exploration, mais aussi le recul, le regard sur la formation des objets. Nous enregistrons à la veille du sommet de Copenhague qui discute sur l'avenir du climat, en tout cas les décisions politiques qui seront prises. Est-ce qu'il y a urgence là aussi à apporter des réponses sur finalement la façon dont les mondes se sont constitués pour mieux comprendre ce qui nous arrive ?
J'en suis absolument convaincu, je pense, et c'est pas du tout par par populisme que l'on dit ça, c'est pas du tout par pour profiter de l'actualité. Je pense que ce qui fait l'urgence, c'est que je dirais il y a deux niveaux. D'abord, la compréhension de ce qui se passe réellement sur Terre est une exigence. Ce n'est pas simple de comprendre les raisons de la divergence de notre climat actuel et les risques qu'il y a derrière. Et s'il y a urgence, c'est que les constantes de temps sont extraordinairement brèves maintenant. C'est à l'échelle de dizaines d'années que des évolutions considérables sont en train de se passer. Des évolutions semblables ont pu se passer dans le passé, mais sur de grandes constantes de temps. Donc le système avait le temps d'évoluer et de s'adapter. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas le temps de s'adapter. Donc il faut absolument comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, c'est vrai que regarder ce qui se passe ailleurs est très très instructif. Par exemple, c'est en travaillant sur Mars qu'on comprendra probablement le mieux comment se forment des nuages. Or, on sait que les nuages ont un rôle absolument majeur sur la possibilité pour le système actuel terrestre de se voir régulé. On aura du mal à le comprendre sur Terre parce que les choses sont extrêmement complexes, très mêlées à plein d'autres choses. Sur Mars, les choses sont plus simples. Donc, c'est vrai que travaillant ailleurs nous aide à cela. L'autre chose, c'est que plus on travaille sur l'ensemble des planètes, plus on s'aperçoit réellement que notre monde est unique. Et ça sort une idée très forte, c'est qu'il faut faire avec. On n'a pas, y a pas d'échappement possible. Non seulement il faut comprendre ce qui se passe sur Terre, mais il y a urgence à le comprendre. Et il n'y a pas d'autre solution que faire en sorte que la Terre reste notre Terre.
Vous piquez une petite colère sur un mot qui s'appelle la terraformation. Vous fustigez l'idée que ça puisse être rentré en définition dans le journal officiel de la République française, en date du 17 avril 2008, d'ailleurs, je n'avais pas remarqué ça, où on parle de biosphérisation et on précise que c'est la transformation de toute ou partie d'une planète consistant à créer des conditions de vie semblables à celles de la biosphère terrestre en vue de reconstituer un environnement où l'être humain puisse habiter durablement. Ça vous paraît de la folie ?
C'est pire que de la folie et je suis très... Effectivement, c'est par hasard que je suis tombé sur cet article du journal officiel qui donne comme un label à cette idée. Il y a une double idée derrière contre laquelle je crois il faut qu'on se rébelle. La première, c'est de donner cette idée que si ça ne va pas ici, ce n'est pas grave parce qu'on pourrait faire ailleurs la même chose et il y a une terre de repli et ce pourrait être Mars, par exemple. C'est profondément faux. Et la seconde idée qui est justement derrière, c'est que si la Terre est la Terre actuellement, avec la capacité pour l'homme d'y évoluer, pour la vie de s'y développer, c'est pour énormément de raisons distinctes qui ne sont pas reproductibles ailleurs. Et il y a quelque chose de profondément faux dans cette idée qu'on peut recréer ailleurs, c'est la compréhension de ce qui fait la spécificité de la Terre. Si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est pas simplement parce qu'on est à telle distance du Soleil ou pas parce que les conditions de ce qu'on appelle l'habitabilité sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes qu'on imaginait. Et on est en train de les mettre à jour, ces conditions-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'eau est liquide à la surface de la Terre et résulte d'énormément de processus différents. J'en parle un petit peu dans ce livre. Ça tient compte par exemple de la concentration de gaz carbonique. Est-ce qu'on réalise que ce qui fait que l'eau est liquide, c'est parce qu'il y a actuellement, grâce à la tectonique des plaques, une fraction infime du gaz carbonique initial qui a été essentiellement bloqué sous forme de carbonate qui remonte à la surface parce que les continents sont bloqués à l'aplomb des zones de subduction. Ça ne se trouve nulle part ailleurs et il faut pour cela des conditions très particulières qui font que sur Terre, on n'a qu'une dizaine de grandes plaques et pas des milliers ou zéro comme ailleurs dans le système solaire, etc.
Vous nous expliquez qu'il faut une dynamo très efficace, c'est-à-dire un cœur de planète qui lui-même soit, alors, entre guillemets, actif, hein, en mouvement, générant un bouclier magnétique qui nous protège. Et en fait,
ça, c'est aussi une idée qui est arrivée très récemment, qui est pas tant importante aujourd'hui que dans le passé. C'est que très vraisemblablement, ce qui fait que la Terre a pu maintenir les conditions propices à l'évolution du vivant, c'est que tôt dans son histoire, elle a maintenu effectivement ce bouclier magnétique, une dynamo très efficace. Alors ça paraît une phrase comme ça, mais quand on réfléchit à ce qu'il a fallu pour que la Terre ait un champ magnétique pérenne pendant plus d'un milliard d'années et jusqu'à aujourd'hui de fait, alors que Mars ne l'a pas eu, c'est des conditions tout à fait fondamentales qu'on commence à comprendre. On est à peu près convaincu que Mars, très tôt dans son histoire, a eu des conditions très semblables à celles de la Terre, avec peut-être de l'eau stable à l'état liquide, peut-être de vastes océans, et on en a la trace aujourd'hui. D'ailleurs, il ne se trouve pas là où les gens le pensaient. Mais ce qui fait que ces conditions ont disparu sur Mars, c'est précisément qu'elle n'a pas eu de quoi maintenir son bouclier magnétique, très vraisemblablement. Et ça, c'est pour des choses qui sont liées à la teneur en éléments radioactifs dans son manteau, qui font qu'il a fallu un processus de transfert d'énergie très particulière pour entretenir la convection dans le noyau lui-même. On commence à comprendre pourquoi sur Mars ça n'a pas marché alors que sur Terre ça a pu marcher. Eh bien voilà, effectivement, ça fait partie des ingrédients nécessaires pour que la vie puisse peut-être émerger et en tout cas survivre.
Vous effectuez des allers-retours permanents entre la Terre et Mars. On a l'impression que la recherche aujourd'hui des endroits sur Mars où finalement il faut aller explorer, peut-être faire descendre de nouveaux robots pour aller voir dans certains endroits on trouve des traces entre guillemets les plus primitives, finalement ça dépend aussi de ce que l'on sait sur Terre aujourd'hui.
Oui, il y a une très grande symbiose entre les recherches qu'on fait actuellement, surtout des temps anciens terrestres, des temps anciens martiens. L'idée de base là-dedans, c'est qu'on sait que la vie a bien sûr émergé sur Terre. On ne sait pas ni où ni comment, à vrai dire, puisque les objets les plus anciens sur Terre remontent à 3,7-3,8 milliards d'années, la raison étant que la mémoire d'avant a disparu. Ça ne veut pas dire que la vie est apparue à ce moment-là. Je parle un petit peu de cette affaire-là, en particulier de ce qu'on appelle l'archéen, que l'on date aux alentours de 3,8 milliards d'années, mais c'est un petit peu l'idée de rechercher une épingle sous un réverbère, sous prétexte qu'il y a de la lumière, alors qu'on ne l'a pas perdue à cet endroit. Il se peut tout à fait que la vie et les conditions qui sont tout à fait critiques aient apparu bien avant, et elles sont tout à fait fondamentales à comprendre, et on ne peut pas y avoir accès parce qu'on en a perdu la mémoire sur la Terre. Il se trouve que sur Mars, on a identifié des terrains qui sont encore porteurs de cette mémoire-là. Et peut-être qu'on a sur Mars des terrains qui, à nouveau, sont différents de ceux qu'on imaginait avant, où il y a eu de l'eau liquide, où il y a eu un certain des ingrédients, en tout cas, que l'on pense avoir été nécessaires sur Terre, qui sont préservés comme tels depuis cette époque-là. Et si on se pose sur place, on pourra savoir ce qu'étaient les conditions de l'environnement et de Mars et de la Terre à cette époque-là. En d'autres termes, on a sur Mars des terrains contemporains du moment où sur la Terre la vie est apparue, mais avec l'ensemble des conditions préservées. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment étudier ce qui se passait à ce moment-là, et en particulier savoir si précisément sur Mars aussi la vie a pu émerger. Et on pourrait comprendre pourquoi, si la vie a émergé aussi bien sur la Terre que sur Mars, pourquoi elle a pu ne pas poursuivre son évolution sur Mars alors qu'elle l'a fait sur Terre.
C'est quand même un incroyable grimoire, Mars. On a vraiment toutes les époques qui sont restées, même si certaines sont enfouies sous des couches de poussière. Et alors, ce qui est surprenant quand on vous lit, c'est que finalement, on va trouver les terrains les plus anciens, ceux où vous êtes aujourd'hui persuadé que l'eau a coulé ou a existé, finalement, pas là où on l'attend. C'est-à-dire pas là où, quand on regarde une image de Mars, on se dit, tiens, des anciennes rivières, tiens, là, ça a dû couler. Cette histoire-là, elle a été longue, finalement, à reconstituer.
C'est tout récemment qu'on a réalisé que les images toutes seules sont extrêmement trompeuses. Et que quand vous suivez sur Terre, quand vous voyez un cours d'eau, vous vous dites, c'est trivial de dire que quand il y a un fleuve, il a une source quelque part, il se jette ailleurs. Si bien que quand on voit une trace de fleuve asséché, comme il y en a sur Mars, on se dit, bah, il y a une source et ça se jette quelque part. Et donc on va au bout du fleuve et on se dit, là, il y avait la mer. On s'y pose et on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu la mer à cet endroit. Donc c'est quand même paradoxal. Et on a compris qu'effectivement, ce que nous donnent les images à voir, à savoir qu'il y a eu des écoulements, ne nous dit pas que les mêmes choses ont causé les mêmes effets. En d'autres termes, ce n'est pas parce que de l'eau a coulé qu'elle était stable au moment où elle a coulé. Il y a eu des fleuves sur Mars, l'eau a coulé sur Mars, mais paradoxalement, elle n'a jamais, dans ces endroits-là, alimenté de réservoirs pérennes, de lacs, d'océans, de marécages, au fond duquel, éventuellement, la vie aurait pu émerger. Et c'est vrai que toutes les sondes de la NASA qui se sont posées précisément dans des endroits qui semblaient être les débouchés de ces fleuves, comme Viking 1, Viking 2, Pathfinder, ont échoué dans leur recherche des vestiges du vivant, simplement parce qu'on n'a pas imaginé que de l'eau aurait pu couler, alors qu'en même temps qu'elle s'écoulait, elle s'évaporait, elle était chassée de la planète, mais elle n'a jamais fait de réservoir stable. Ce qui compte sur Mars, ce n'est pas de savoir si de l'eau a coulé, parce qu'on voit que de l'eau a coulé. Mais à nouveau, l'eau peut couler même si elle n'est pas stable. En même temps, elle s'évapore, elle disparaît. Ce qu'il faut, pas qu'elle coule, mais qu'elle soit stable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a coulé, elle puisse demeurer quelque part. Eh bien, les images ne nous donnent pas cette information-là. Ce qui nous donne l'information sur la stabilité, c'est pas le fait qu'on voit des cours d'eau, c'est le fait qu'on voit, mais sous un, par d'autres vecteurs d'information qui sont des roches, qu'il y a pu y avoir pendant longtemps des roches qui ont barboté dans de l'eau. Et quand de l'eau est stable, alors les roches dans lesquelles elles barbotent, elles se transforment. C'est l'altération des minéraux qui nous donne accès, en fait, aux conditions de l'environnement, beaucoup mieux que les images. Et pour ça, il faut rajouter aux images une information importante qui est la composition du sol. Et c'est ça qu'on fait depuis quelques années et qui a changé vraiment notre vision de Mars, c'est que pour la première fois, on peut corréler ce que l'on voit à la composition elle-même. On peut voir les minéraux d'altération. Un exemple, on voit que Mars est rouge, on le sait bien, c'est à ça qu'on doit son nom. Pendant longtemps, les gens se sont dit, si elle est rouge, c'est qu'il y a de la rouille, s'il y a de la rouille, c'est qu'il y a de l'eau. Eh bien, on s'est posé dans les endroits rouges. On a montré qu'effectivement, Mars est rouge d'avoir été rouillé. Mais en même temps, on a montré que cette rouille n'est pas due à de l'eau liquide. Et que chaque fois qu'on s'est posé dans les endroits rouges pour y voir la trace de l'eau, on s'est trompé. Parce que la rouille n'a pas été faite par de l'eau liquide, mais au contraire par un tout autre processus, qui n'est pas très important dans ce débat ici, mais qui ne procède pas d'une activité d'eau liquide. Là où il y a de l'eau liquide, ça n'a pas fait de la rouille, ça a fait d'autres minéraux, comme des argiles hydratées. Parce que pour faire une argile, il faut de l'eau relativement chaude pendant de très longues périodes. Et c'est l'identification des endroits où on a trouvé des petites argiles. Il y en a très peu actuellement à la surface et des petits endroits très localisés parce qu'ils ont été recouverts puisqu'ils sont très anciens. Mais il y a quelques endroits où l'érosion a mis ces terrains à nu. Et on sait que si on se pose là, si on analyse ces terrains-là, alors on aura peut-être les vestiges préservés de l'ère pendant laquelle Mars a peut-être été habitable, sans être forcément habité du reste.
Pour terminer sur les images, on peut dire aussi que les images ont la vie dure. Vous pointez le fait que dans les labos où vous vous promenez, vous voyez régulièrement, enfin où vous travaillez plus exactement, vous voyez régulièrement cette fameuse image qui a été popularisée par la communication à la NASA d'une planète, Mars, avec toute une grande portion d'hémisphère recouverte par un océan. Ça reste une iconographie importante finalement, présente dans l'esprit que cette planète a été recouverte d'un océan.
Oui, il y a toujours cette idée que Mars a pu être une planète bleue, et où est-ce qu'elle aurait pu être bleuisée comme cela? Eh bien, les gens ont pris les images de Mars actuelles, ont essayé d'imaginer où il aurait pu y avoir un océan, et ils ont fait ça en disant, s'il y a eu de l'eau, c'était dans les endroits de plus basse altitude. Donc, ils ont badigeonné sur Mars les endroits de plus basse altitude, ils ont dit, ben voilà où était l'océan. Et à vrai dire, cette image qui a traîné qui traîne toujours sur tous les murs de la NASA ou des laboratoires de la NASA, est très instructive mais assez plombante, parce que c'est vrai que la NASA a mis tous ses engins précisément dans les endroits bleus de cette carte. Et pour des raisons qu'on explique dans ce livre, c'est précisément pas là qu'il faut aller. Il faut justement imaginer que si Mars n'a jamais eu un océan, c'est pas dans les endroits qui aujourd'hui sont les plus bas, où éventuellement l'eau aurait pu séjourner, s'y stagner. C'est nos endroits qui aujourd'hui sont plutôt de plus haute altitude, les plateaux cratérisés les plus anciens, qu'aujourd'hui on ne voit pas recouverts d'eau.
Alors, il y a eu une révolution dans cette compréhension de ce qu'est la planète. Vous y avez participé et vous l'expliquez longuement à travers la mission Mars Express. Alors, on va revenir évidemment sur Mars Express, mais il y a une histoire, Jean-Pierre Bibring, de l'exploration de la planète Mars, finalement qui peut-être est directement lié à l'exploration spatiale. Dès le départ, on se rend compte que Mars est une priorité à la fois pour les Soviétiques et les Américains. On veut absolument y aller. Hein. C'est aller dans l'espace, c'est une chose, mais Mars, c'est vraiment quelque chose qui est
absolument.
Le drapeau qu'il faut décrocher.
D'abord, il faut quand même réaliser que cette exploration spatiale, tout ça est né il y a une cinquantaine d'années. C'est pas très vieux. On est un peu dans la première phase de ces choses-là. Mais beaucoup de choses dans la conscience des gens ont changé dans ces 50 ans. Et quand on regarde la conception, ça dépend des sociétés bien sûr, mais dans les nôtres en tout cas de l'univers à cette époque-là, pérenne dans l'espace et dans le temps, il y avait cette idée que la vie est quelque chose de très générique. Beaucoup plus d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique que de chez nous. Que ce qu'il y a sur Terre n'a aucune raison d'être spécifique et unique, et il y a de la vie partout, puisqu'il y a de l'eau partout, etc. Tant qu'on n'avait pas de moyens d'aller analyser l'espace réellement, c'était l'idée réellement dominante chez les scientifiques aussi. Si bien que dès que l'homme s'est donné les moyens d'aller voir ailleurs, il a essayé de sonder cette idée. Est-ce que c'est vrai que la vie est vraiment quelque chose de très générique? Et quel est l'objet pour lequel on avait le plus de chances de trouver que c'était vrai? C'était Mars. Pourquoi? À nouveau, parce qu'elle était rouge, il y avait l'idée de cette hydratation, etc. Et donc, c'est vrai que dès les années 60, en fait, c'est-à-dire très peu de temps après le premier Spoutnik, dès que l'homme a eu la capacité d'envoyer des engins au-delà de la gravité terrestre, il a bien sûr d'abord été voir la Lune parce que c'était plus facile, mais on savait très bien que l'objet important, c'était Mars. Et c'est d'ailleurs récemment qu'on a appris que les Soviétiques, les premiers, ont envoyé énormément d'engins vers Mars, pas forcément avec cette idée-là, mais ils voulaient savoir à quoi ressemblait cette planète. Et on sait maintenant que c'était pour l'essentiel des échecs, parce qu'en fait, c'est très compliqué de se poser sur Mars.
Pourquoi ?
La première chose, c'est que ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y a une atmosphère extrêmement ténue. Il y a une atmosphère, mais très ténue. Le fait qu'il y ait d'une part une atmosphère, mais qu'elle soit ténue, les deux sont une complication. Comme il y a une atmosphère, on se dit, on va ralentir pour se poser. C'est pour se poser quelque part, il faut bien sûr ralentir, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour y aller, il faut la perdre quand on arrive. Et donc, comment on fait pour ralentir? Eh bien, on profite de l'atmosphère, en général avec des parachutes. Mais faut-il encore avoir suffisamment de pression? Alors la pression à la surface de Mars, on l'a découvert progressivement, est extrêmement faible, puisqu'elle est ce qui est sur Terre à plus de 40 km d'altitude. Il faut d'énormes parachutes. Le problème, c'est que si on met des énormes parachutes, après, il faut s'en débarrasser une fois qu'on se pose. Et on pense que les premières sondes, en fait, ont été perdues parce qu'elles ont été recouvertes par leur propre parachute. C'est compliqué de se ralentir suffisamment, d'éjecter le parachute avant et d'aller plus loin regarder. Et en fait, il suffit d'une petite variation de la pression, ce qui en plus se passe parce qu'à nouveau, il y a une atmosphère ténue mais qui existe malgré tout. Mais comme elle est très faible et essentiellement constituée de gaz carbonique, dès que la température est faible, le gaz carbonique précipite et il y a des changements de pression de 20-30%. Et vous ne le savez pas a priori à quel moment vous allez tomber. Donc si vous avez un système qui marche pour telle pression, il ne marchera pas si la pression est un peu plus haute ou plus basse. Tout ça fait que c'était extrêmement compliqué de s'y mettre. Il y a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites sur l'exploration martienne. Mais ensuite, bien sûr, les gens ont réussi à s'y poser. Et les plus belles missions étaient les missions américaines, Mariner d'abord, mais surtout Viking, qui ont été des missions extraordinaires dans les années 70. Et elles, leur échec, ça n'a pas été de se poser, puisqu'elles se sont posées, elles ont travaillé des années durant, et c'était remarquable ce qu'elles ont fait. Mais c'était l'échec par rapport à ce que certains imaginaient qu'elles devaient trouver, vu que les missions Viking devaient aller chercher non pas s'il y a de la vie sur Mars, mais la vie sur Mars. On en était absolument convaincus. Et là-dessus, ça se pose, ça mesure le sol, effectivement, et ça ne trouve rien. Et on sait bien aujourd'hui pourquoi. Les endroits où elle s'est posée, il n'y avait aucune chance qu'elle trouve quoi que ce soit.
Alors, vous avez travaillé avec les équipes soviétiques sur des missions martiennes. Alors, on va parler, évidemment, comme vous en parlez dans ce livre de Phobos 1 et 2. Donc, c'est une époque où on construisait en Union soviétique les sondes en double exemplaire, hein, des redondances partout. Il y avait un peu plus d'argent qu'aujourd'hui. Ou en tout cas, la priorité était plus importante. Et puis ensuite, Mars 96. Phobos 1 et 2, dont on reparlera dans quelques années en raison du lancement de Grunt Phobos, donc une nouvelle mission, mais cette fois-ci russe, pour aller explorer cette lune de Mars. C'était des missions tout à fait extraordinaires. Alors, on va parler de la 2, puisque la 1, on l'a perdue malheureusement pratiquement à l'arrivée, en cours de route d'ailleurs, hein, je crois, vous expliquez qu'il y a une manipulation informatique qui a déréglé la stabilité de la sonde. Enfin bref, Phobos 2, la mission Phobos 2 se met en orbite autour de Mars, observe Mars, et son objectif, c'est de s'approcher et de se poser sur la petite lune de Phobos. Ce qui est extraordinairement compliqué, pourquoi ?
Alors, il faut voir que la mission Phobos, qui était, donc, était en 88, c'était juste après les missions Viking. Il fallait que les Soviétiques fassent quelque chose de plus spectaculaire, parce que c'était la guerre froide, et il fallait non seulement faire quelque chose d'intéressant scientifiquement, mais il fallait montrer qu'on avait une technologie aussi de pointe. Que faire de plus intéressant que se poser sur Mars? Les Soviétiques se sont dit, on va faire quelque chose de remarquable, c'est que non seulement on va aller sur Mars, mais on ne va pas y aller, on va se mettre en orbite au même endroit où Phobos est en orbite autour de Mars, et on va essayer de regarder Mars depuis l'orbite de Phobos et ensuite de se poser sur Phobos. Vous savez, Phobos est une toute petite lune, c'est la plus grosse des lunes de Mars, mais elle ne fait jamais que 20 km dans sa plus grande dimension. C'est vraiment un tout petit objet, la gravité est presque nulle. Quand on dit qu'on est en orbite autour de Phobos, en fait on tourne autour de Mars à la même vitesse que Phobos. Et la mission Phobos avait un objectif extraordinaire qui était de faire un survol rapproché de Phobos. C'est-à-dire que non seulement il s'agissait de poser des petits engins, effectivement, mais l'engin principal devait faire un survol à quelques dizaines de mètres seulement, suivre Mars avec sa surface et depuis une cinquantaine de mètres, canarder la surface avec des ions, un laser pour éjecter des particules et analyser depuis la sonde le sol par les particules éjectées comme ça.
Années 70.
C'était extraordinaire, c'était fantastique comme idée. L'histoire, c'est que la mission a marché jusqu'à l'approche de Phobos. Ils sont restés 2 mois en orbite autour de Mars à la distance de Phobos jusqu'à se rapprocher très près de Phobos. Et à un moment donné, ils se sont dit, voilà, on est tout prêt, on va faire le grand saut, on va y aller. Ils ont arrêté toutes les expériences, pointé Phobos et on s'est dit, voilà, on se donne 2 jours pour recharger les batteries, dans 2 jours, on fait le grand truc. Et pendant ces 2 jours, c'est absolument extraordinaire, si on peut le dire, il y a une éruption solaire majeure qui d'ailleurs a mis tous les satellites en orbite de la Terre en ce qu'on appelle le mode de sécurité. Tout s'est arrêté. D'ailleurs, il y a eu une panne électrique au Canada pendant plusieurs jours à cause de ça. Grande décharge électrique dans l'atmosphère de la Terre. Bref, énorme éruption solaire. Et ça a tué la mission Phobos 2 parce que l'ordinateur de bord n'était pas assez protégé contre ça, si bien que le grand rendez-vous avec Phobos était perdu. C'est une mission qui aurait pu être extraordinaire. Et ce qu'ils sont en train de remettre sur pied aujourd'hui, c'est une mission qui se veut encore plus spectaculaire, puisque non seulement elle va s'approcher sur Phobos, mais elle va se poser avec l'idée de prélever des échantillons après avoir analysé le sol et les rapporter sur Terre.